Bienvenue sur cette antenne, vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Pour commencer donc, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Des chercheurs asiatiques viennent d'attribuer au mariage une nouvelle vertu. Selon eux, convoler en juste noces aiderait à prévenir le risque de démence. Ainsi, les célibataires et les veufs seraient-ils davantage exposés? La bague au doigt contre la dégénérescence cérébrale? Des chercheurs de Hong Kong et de Singapour ont passé au crible une quinzaine d'études conduites sur le sujet, ce qui représente au total 800 000 participants d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie. Ainsi, les scientifiques ont observé que, comparé aux personnes mariées, celles et ceux qui étaient depuis toujours célibataires avaient 42% de risque en plus de développer une démence. Pour les veufs, ce danger était accru de 20%. Notons que le même genre de conclusion n'a pas été tiré pour les couples divorcés. Comme souvent dans le cas d'une étude observationnelle, les auteurs peinent à trouver une explication. Pour autant, ils avancent le fait que les célibataires ont bien souvent une plus mauvaise hygiène de vie et moins d'interactions sociales. Pour les veufs, le stress inhérent à la perte de l'être cher ne serait pas étranger à l'affaire. Malgré tout, à l'heure où les cas de maladie d'Alzheimer sont à la hausse et aussi intéressants que soient ces résultats, on imagine mal comment ils pourraient être traduits en moyens efficaces de prévention contre la démence.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale, c'est IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 177-193, Damary-les-Lys, Cedex.
L'invité du service radio de la Fédération protestante de France.
En 1517, Martin Luther publiait ses 95 thèses. En 2017, les protestants de France commémorent les 500 ans de la Réforme. Protestant en fête 2017 à Strasbourg, a été un rendez-vous phare de cette année Luther. En cette fin d'année 2017, la Fédération protestante de France, avec son président François Claveroli, prononce une déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme français. Roland Poupin, bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France, à Poitiers et à Châtellerault, et vous êtes président de la commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Pourquoi, en cette année Luther 2017, les protestants de France font une telle déclaration à l'intention de la communauté juive de France ?
Il y a maintenant plusieurs décennies qu'un travail fraternel est effectué. Il y a une commission, la commission qu'actuellement je préside, qui date de quelques décennies aussi, après-guerre, et qui a beaucoup travaillé les relations avec le judaïsme. Les choses ont beaucoup changé par rapport à ce qu'il a pu en être dans le temps, et notamment avec Luther. Et avec l'année Luther, c'est l'occasion de dire notre fraternité aux Juifs, et ça relève même, d'une certaine façon, de quelque chose qui est de l'urgence, non pas dans le temps, mais il est incontournable de dire notre fraternité aux Juifs compte tenu de l'attitude de Luther, du Luther vieux.
Alors, les protestants ne contestent pas cette réalité, mais finalement, c'est l'occasion de dire qu'ils s'en séparent et comment?
Oui, ils ont commencé à s'en séparer progressivement, il s'agit de le dire aujourd'hui, mais ils s'en séparent radicalement. Les textes de Luther vieux sont insupportables, sont illisibles. Luther avait bien commencé, on pourrait dire, entre guillemets, il avait essayé de se dégager de l'attitude dure de l'Église jusqu'à lui à l'égard des Juifs.
C'est-à-dire?
Il a, par exemple, écrit un traité que Jésus-Christ est né juif, ce qui aurait pu surprendre à l'époque. Mais le petit problème, petit entre guillemets, qui est derrière cela, c'est que l'intention qui perce à travers ce traité et à travers d'autres textes où il est très positif avec les Juifs, comme dans son commentaire du Magnificat, c'est que derrière, il vise, avec cette attitude positive, à lever les obstacles à leur conversion. Il estime que la dureté de la position de l'Église auparavant entraînait que les Juifs restaient Juifs. Et donc, avec cette attitude positive, il espère leur conversion, c'est explicite dans ses premiers textes, qui, cela dit, sont très ouverts pour l'époque. Et voyant que cette conversion ne se produit pas, voyant aussi que la lecture qui lui semble incontournable de l'Écriture, christocentrique en l'occurrence, n'est pas le fait des Juifs, il dérape, il glisse de plus en plus à une attitude qui est ignoble, insoutenable, qui fait tache sur les origines du protestantisme.
Et bien justement, dans cette époque moderne, est-ce que c'est pas l'occasion de rappeler que les protestants de France combattent l'antisémitisme?
Ah si, si, et cette déclaration a aussi, dans un certain sens, cette signification, en tout cas s'inscrit dans cette mémoire-là, parce qu'on vient de parler de Luther, mais il y a aussi, à l'époque de Luther, dans son entourage, plusieurs de ses proches qui ne sont pas du tout d'accord avec lui sur ce plan-là. Et le plus connu, au fond, relativement proche, disons, c'est Calvin. Calvin qui affirme dès le XVIe siècle que l'alliance avec Israël n'a jamais été abrogée et ne peut pas être abrogée. Actuellement, si on pense aux relations judéo-chrétiennes en général, on a tendance à penser que c'est une nouveauté qui date des années, la fin des années 40 ou années 60, mais Calvin le tient déjà. Alors, ça a eu un rôle sans doute important dans le protestantisme français et dans l'attitude, dans l'histoire du protestantisme français, des protestants à l'égard des juifs, qui a été en général ouverte, fraternelle disons.
Je rebondis sur ce que vous dites à travers finalement ce que nous avons de commun avec les Juifs. Vous parlez de cette mémoire qui engage.
Oui, la mémoire nous engage aussi à reconnaître la spécificité de chacun et le rôle de chacun vis-à-vis, et c'est là qu'il est question de la mémoire qui engage, vis-à-vis du reste du monde. On a un rôle à jouer avec nos spécificités particulières aux uns et aux autres, avec évidemment des fondements communs importants, par exemple par rapport à la lecture des Écritures. Il y a une conscience assez forte dans le protestantisme, et notamment de tradition calvinienne, et telle qu'il s'est développée dans les campagnes françaises, qui consiste à laisser parler la Bible hébraïque comme elle parle. Alors évidemment, ça n'en fait pas une lecture juive pour autant, mais il y a quand même ce fondement-là sur lequel il est possible d'avoir un dialogue approfondi et fraternel.
Dans cette déclaration, vous parlez, dans un premier temps, de dialogue et de rencontre. Mmh. A-t-on besoin d'une telle déclaration pour encore se rapprocher et encore mieux se comprendre?
Disons que ça fait, à l'occasion de ce cinquième centenaire de la Réforme, le moment de poser un bilan. Les choses ont énormément avancé depuis 70 ans, avec par exemple donc, la fondation de l'ICCJ, donc Conseil International des Juifs et des Chrétiens, pour le dire en français. Et les premières déclarations qui ont eu lieu à cette occasion, il y a, quand on lit ces déclarations et quand on lit les récentes déclarations, il y a un progrès considérable qui a été fait dans la rencontre, dans la compréhension réciproque. Il y a eu des déclarations juives, donc une importante qui a été offerte aux églises catholiques et protestantes il y a 2 ans maintenant. On est dans une période où on pose un bilan d'une avancée considérable et posant ce bilan, on vise aussi à ouvrir sur des étapes supplémentaires. Sur ce bilan-là, il faut aller plus loin dans la compréhension réciproque.
C'est-à-dire
pour parler par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la non-abrogation de l'alliance, le fait que l'alliance avec Israël n'est pas abrogée et ne peut pas l'être. Elle repose, c'est les textes de Calvin, dans l'Institution chrétienne, livre 2, chapitre 10 notamment, elle repose sur l'idée que Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est telle que quand il s'est engagé, il ne se rétracte pas. Mais il y a aussi une contrepartie, c'est que lire cette fidélité de Dieu de la part de ceux vis-à-vis de qui il s'est engagé pose aussi un acte de fidélité. Et l'étape nouvelle qu'il est question de franchir et qui a déjà commencé à être abordée, c'est de considérer que la non-conversion des Juifs au christianisme est un acte de fidélité Il y a une tradition séculaire dans le christianisme qui consiste à penser que, au moment de la venue du Christ, Israël marque une infidélité. Et il est temps maintenant, en comprenant que Dieu s'est engagé avec une alliance qui a des structures, des référents, qui fondent le judaïsme, de comprendre donc que vis-à-vis de cette alliance, l'attitude d'Israël n'est pas infidélité, mais au contraire fidélité. Et donc ça concerne la lecture de livres, ça concerne l'accomplissement de rites, l'observance des préceptes, la considération de la symbolique d'une terre aussi. Ça va jusque-là. C'est sur ces plans-là qu'il est temps maintenant de franchir un pas supplémentaire. C'est donc une étape qui se marque là.
Vous parlez aussi d'engagement dans la République, dans cette déclaration, et de principe de laïcité et de responsabilité citoyenne.
Oui. Prenons la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, nous la connaissons. Les deux premiers points sont faciles à comprendre dans une société de droit. On a le sujet, liberté, face à la loi. Égalité de tous devant la loi, c'est le premier point aussi de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, et puis celle de 48 précise en dignité et donc en droit. Ça, c'est les fondements, on pourrait dire abstraits, de ce qui fait une société de droit qu'est la République. Ces fondements abstraits demandent à être nourris, demandent à recevoir de l'esprit et de la chair. Et ça, c'est dans le terme fraternité. Et notre responsabilité est forte là. Notre responsabilité qui consiste donc à donner de la chair, à nourrir spirituellement les principes que sont égalité et liberté, qui posent loi et sujet.
Mais en faisant comment le faire? Comment le quoi dire?
Déjà en se rencontrant fraternellement et en évitant de considérer l'autre à partir des a priori de foi par lesquels on avait, ça a duré des siècles quand même, pour ne pas dire des millénaires, pris l'habitude de considérer qu'il n'avait plus trop lieu d'être. Attitude redoutable, terrible. Pourquoi est-ce que les choses ont commencé à changer à partir du milieu des années 40? C'est qu'il y a eu une prise de conscience à une occasion épouvantable, bien sûr, quoi. On a pris conscience que cette attitude-là, qu'on a appelée la théologie de la substitution, l'idée que le christianisme aurait remplacé Israël. On a pris conscience que cette attitude-là avait paralysé les églises quant à la résistance contre le nazisme.
Mais pourquoi est-ce aux protestants de France de montrer l'exemple dans la considération et la compréhension des juifs et du judaïsme français? Est-ce que parce qu'on a été une minorité maltraitée, qu'on est plus sensible que d'autres?
Alors, je dirais pas qu'on a à montrer l'exemple. Il y a d'autres chrétiens qui travaillent aussi aux relations avec le judaïsme et à une relecture de la façon dont on avait appris à considérer. On a les formules de Jules Isaac, passer de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Donc, Jules Isaac, qui est un des fondateurs de l'amitié judéo-chrétienne. Donc cet élément-là est important. Donc il n'est pas question d'exemple, mais effectivement, on a une mémoire commune, on a des textes communs, je vous le disais, et il y a un élément concret. On a ces textes-là dans la Bible hébraïque qui disent « Vous avez été étrangers, exilés au pays d'Égypte, alors vous êtes à même de comprendre ceux qui vivent la même chose que vous. » C'est des textes qui ont été posés comme référence aussi pour l'attitude des protestants vis-à-vis des juifs. Et en plus d'une façon particulièrement aiguë, puisqu'il y avait une reconnaissance de cette filiation commune. Je pense par exemple à la dédicace de la première version de la Bible en français d'Olivetan à la demande des Vaudois. La première dédicace, c'était à notre confédéré, le peuple du Sinaï. Les versions suivantes ne la portent plus, mais la première version avait cette formule-là. C'est quand même intéressant.
Roland Poupin, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
À l'occasion de la déclaration fraternelle du protestantisme au judaïsme, le 4 décembre dernier à la Maison du protestantisme, nous recevions Roland Poupin, pasteur et président de la commission des relations avec le judaïsme de la Fédération protestante de France. Raïm Korsia, le grand rabbin de France, était présent lors de cet événement.
C'est avant tout un remerciement, et puis c'est la capacité à tracer un fil, un horizon, une direction de ce qu'on va faire. Si vous voulez, on peut se retourner sur notre histoire et dire on aurait pu améliorer certaines choses. Mais c'est surtout la définition d'axe commun pour le service de tous.
Vous avez souligné le fait qu'on parlait de Premier Testament et non pas d'Ancien. Il y a une certaine continuité de ce fait?
Oui, c'est une des spécificités du protestantisme d'avoir cherché en beaucoup d'occasions les mots justes. C'est important. Évidemment, entre Ancien et Premier Testament, il y a une grande différence. L'Ancien est dépassé par le Nouveau. Le Premier reste toujours, j'allais dire, en exercice quand il y en a un second qui répond à la demande, aux besoins de certains. Et puis il y a d'autres mots qui sont utilisés à bon escient par le protestantisme, en particulier ce terme de fraternité que le pasteur Calverolim et que tous les pasteurs, tous les rabbins et tous les prêtres et tous les imams utilisent. Mais chez le protestantisme, il y a cette conviction profonde qui est à la fois le domaine de la religion et le domaine de la citoyenneté, ce qui est important pour nous aussi.
Monsieur le grand rabbin, je vous remercie.
C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro d'Olivier Betty, réalisation Michel Schaeffer.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire.
Votre histoire.
Votre histoire compte.
Je vis ma vie comme ça, avec une foi qui est très ancrée dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et puis de l'observation aussi de mes enfants, du bon sens de la vie. Et finalement, c'est dans la Bible que je trouve tout plein de réponses sur comment vivre notre vie d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a la vie éternelle, il y a tout ça. Mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui pour moi, dans mon quotidien, que je sois adulte, enfant, etc.
Bonjour, ainsi Fonfonfon, c'est Dansez-vous l'Histoire aujourd'hui. Marie-Alice Monge est notre invitée. Elle n'est pas seule, elle a amené Nestor et Alphonse avec elle.
Alphonse.
Ouais.
Je peux te poser une question?
Oui, vas-y.
Alphonse.
Oui.
T'es qui?
Qui je suis?
Oui, t'es qui?
Bah, je suis comme toi, un petit verre sympathique et ordinaire. À la seule différence qu'il y a toujours un truc qui tourne dans ma tête, qui tourne. Et je peux pas m'empêcher de poser des questions. Pour savoir. Tant que j'ai pas compris, je continue à poser des questions. Comme tous les enfants, quoi.
Oui, et c'est pas prêt de s'arrêter.
Tu crois? C'est grave? C'est grave de poser des questions?
Non, je crois que c'est plus grave quand on s'en pose plus.
Vous l'aurez compris, Nestor et Alphonse sont des marionnettes. Notre journaliste François Sergi a joué les curieux et s'est glissé derrière le rideau du théâtre Guignol. Il a profité du grand rassemblement annuel des protestants évangéliques de France, dont Marie-Alice Monge fait partie, pour l'interviewer à son stand.
Marie-Alice Monge, bonjour.
Bonjour.
Nestor et Alphonse, ce sont deux marionnettes.
Oui, voilà, c'est ça. Deux petits vers de terre.
Deux petits vers de terre. Pourquoi des vers de terre?
Parce que c'est en même temps rigolo. Je crois que c'est un insecte que les enfants aiment bien. Parce qu'ils aiment bien le disséquer, ils aiment bien en chercher dans la terre, etc. Et en même temps, je sais pas, commun.
Alphonse, il pose les questions.
Voilà. Alphonse, c'est un peu l'enfant qui a envie de se poser des questions sur la vie, sur ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Tout à fait.
Et on voit que ce sont des questions que des adultes pourraient aussi se poser.
Voilà, c'est ça un peu la chose un peu rigolote. C'est que c'est des questions difficiles, mais que les adultes, des fois, n'osent plus se poser ou n'ose pas se poser. Et donc, lui, il y va.
En somme, c'est de la philosophie de la vie, d'existence.
Voilà, se poser des questions sur la vie, prendre le temps de se les poser.
Sur un certain nombre de valeurs?
Oui, sur plein de valeurs.
Donc, c'est le mode question-réponse?
Oui, c'est ça.
Alphonse pose des questions,
Nestor répond avec ce qu'il sait, ce qu'il bluffe, ce qu'il imagine.
Il ne sait pas toujours.
Il ne sait pas toujours, mais il y va quand même. Des fois, il est complètement à côté de la plaque ou des fois, il touche des choses sensibles ou vraies. Voilà.
Alors, on sent bien que derrière ces réponses, il y a des valeurs proprement évangéliques, en fait.
Ben, il y a des valeurs que la Bible nous enseigne, tout simplement, des valeurs chrétiennes, oui. Après, évangélique, c'est parce que nous, on s'approprie ça, peut-être, mais ces valeurs, elles sont à tout le monde. La Bible, c'est un patrimoine de l'humanité, donc elle appartient à tout le monde. Donc, ces valeurs, elles doivent être ressorties de cette Bible et pour être diffusées jusqu'aux enfants, jusqu'aux parents, et qu'on puisse en discuter.
Nestor et Alphonse voyagent beaucoup dans les écoles, dans les
Alors,
écoles
c'est
du
le
dimanche.
Début, hein, c'est notre lancement, donc on tâtonne un peu.
Et donc, voilà, le DVD est sorti,
voilà, pour Bercy, pour protestants, en fait. Et puis, là, on tâtonne, donc c'est de 1 à 1, c'est de personne à personne. Et puis, il est même parti à Madagascar pour une diffusion là-bas.
Il y a combien de personnes autour de Nestor et Alphonse, finalement?
Il y a moi qui suis l'auteur. Voilà. Après, il y a le chanteur, le cri de la galerie, là. Et puis, l'ingé son, image, etc., pour tout ce qui est les montages, puisque c'est de la vidéo.
Nestor?
Oui.
Je peux te poser une question?
Vas-y, Alphonse.
Nestor, qui es-tu?
Ben, Alphonse, c'est moi. Tu ne me reconnais pas?
Non, mais je veux dire, pour ceux qui nous regardent, qui es-tu, Nestor?
Alors, si c'est pour mes fans, je m'appelle Nestor, je suis un ver de terre agréable et poli. Dans mon temps libre, je collectionne les larves de pucerons et surtout, je suis un philosophe de la vie.
Un philosophe de la vie?
Et
c'est quoi?
C'est simple. J'aime la vie, alors je l'observe et j'essaie de la comprendre.
Oh.
Et en plus, mon frère, c'est-à-dire toi...
Quoi?
Me pose toutes sortes de questions tout le temps. Et si je ne veux pas passer pour un idiot devant le monde entier, Alors je dois trouver des réponses.
Mais oui, moi, je fais pas exprès de poser des questions. C'est juste que je pose des questions sur leur vie parce que je la trouve compliquée. Surtout celle des humains, hein. Ils sont compliqués. Oh là là, ils sont compliqués, ces humains.
Tu as raison.
Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire. Avec nous, Marie-Alice Monge, la maman, si on peut dire, de deux marionnettes, Nestor et Alphonse. Deux vers de terre qui, mine de rien, donnent à réfléchir sur les questions de la vie. Mais qu'est-ce qui a donc poussé notre invitée à produire un spectacle avec ces deux hurluberlus? La réponse est simple, c'est sa foi chrétienne. Elle nous en parle davantage au micro de François Sergi.
Oui, moi je suis née dans une famille chrétienne, un peu atypique parce que je dirais j'ai pas forcément grandi dans une église, j'allais pas forcément toujours à l'église, mais parce qu'on était à l'étranger, on n'avait pas d'église au coin de la rue. Donc ce que j'ai observé beaucoup, c'est que mes parents vivaient leur foi. Et de cette vie de foi, des questions sont nées. Et du coup, finalement, je vis ma vie comme ça, avec une foi qui est très ancrée dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et puis de l'observation aussi de mes enfants, du bon sens de la vie. Et finalement, c'est dans la Bible que je trouve tout plein de réponses sur comment vivre notre vie d'aujourd'hui. La vie de chrétien, c'est fait pour vivre. Bien sûr, il y a la vie éternelle, il y a tout ça, mais avant tout, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui pour moi, dans mon quotidien, que je sois adulte, enfant, etc.
Donc c'est pas d'abord une question d'église, en fait, ou de fréquentation d'église?
Non, c'est une question de vie, et puis forcément, on a envie d'être avec d'autres. Et les autres s'appellent église.
Et comment vous vivez, vous, en tant que chrétienne, dans votre relation à la société? Marie-Alice Monge, on voit tout d'un coup qu'elle est chrétienne. À quoi est-ce qu'on le voit?
J'en sais rien, ça c'est à eux de me le dire. Enfin, moi, je n'ai pas du tout honte de cacher que je suis chrétienne ou pasteur, etc. Moi, je crois que dans le quotidien...
Vous êtes pasteur?
Oui, avec mon mari, on est pasteur d'une église qui s'appelle l'église de l'Abri. Moi, j'aime vivre ma foi au quotidien, donc si je peux, je sais pas, je suis naturelle, je suis moi-même, j'espère que ça se voit, parce que je pense que quand les gens sont habités de Dieu, ça se voit et que c'est lui qui rayonne dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans les peines de la vie, dans tout ça. C'est ce que je partage le plus peut-être à mes amis, c'est qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est qui je suis, où j'en suis et voilà, et pourquoi je crois en Dieu aujourd'hui, quoi.
Et pourquoi c'est important de partager ça à des enfants?
Parce que même si j'aime la société d'aujourd'hui, même si j'aime la France, il y a des choses qui manquent si on regardait seulement la télé, si on avait seulement l'école, etc. Et j'ai envie que mes enfants, j'ai 5 enfants, grandissent avec cette foi, avec cette espérance de quelque chose de meilleur, avec un Dieu qui appuie, qui oriente dans les choix, avec des bonnes façons de vivre les relations avec les autres, que ce soit les camarades de classe, les amis, les plus grands, les plus aînés, dans le travail, etc. On a besoin de ces valeurs dans la vie, et plus que faire de la morale à tout le monde, c'est aussi cette foi-là qui rend ça vivant, quoi.
Vous laissez la liberté à vos enfants, vous espérez qu'ils vont tous adhérer finalement à votre foi. Vos enfants, comment ils réagissent à ce que vous vivez, à ce que vous leur transmettez?
Mes enfants aiment Dieu d'une manière très émouvante. C'est que mes enfants sont ceux qui m'encouragent le plus dans ma vie chrétienne de tous les jours. Mes enfants ont une foi qui déplace les montagnes. Mes enfants prient pour nous quand il nous arrive des choses. Mes enfants aiment Dieu naturellement. Ils voient Dieu dans leur quotidien, dans la création, dans plein de choses. Et ils sont libres. Je leur dis toujours, mais si vous n'avez pas envie de le faire, de venir à l'église ou de me suivre dans tous mes projets, mes activités, vous êtes libres. Allez-y. Enfin, voilà. C'est un
Ils
peu
sont
ça.
Un peu comme des exemples. Ça fait penser à cette parole de Jésus. Hein. Si vous ne redevenez pas comme des enfants.
Tout à fait. Mes enfants ont cette liberté d'accéder à Jésus tout seul. On leur donne les éléments quand ils le demandent. Le dialogue est toujours ouvert. C'est pas toujours évident. Des fois, ils en ont ras-le-bol aussi, etc. Mais on essaie toujours de trouver du temps pour discuter, trouver du temps pour expliquer Dieu. J'ai pas beaucoup raconté d'histoires bibliques à mes enfants quand ils étaient petits parce que je préférais leur raconter des contes, genre Chaperon Rouge, etc. Parce que les enfants ont beaucoup d'imaginaire. Or, Dieu, c'est pas imaginaire pour moi. Donc, j'ai beaucoup plus fait de la théologie avec eux. Et c'est ça, Nestor et Alphonse, c'est inspiré de mes enfants. C'est leurs questions de vie auxquelles j'ai répondu de manière, des fois, théologique.
Mais une théologie reliée à la vie. Hein.
Voilà. Une théologie pratique, une théologie empreinte de bon sens, comme dans le livre des Proverbes, en fait. Voilà.
Alors, Nestor et Alphonse, ça fait un premier tour de piste, ça a donné un DVD qu'on peut trouver sur Internet ou dans les bonnes librairies chrétiennes. Oui. La suite?
La suite, alors déjà, il faut vendre ce DVD, donc achetez-le, c'est un moment vraiment chouette à partager avec les enfants, de pouvoir vraiment discuter des choses de la vie. Et puis la suite, c'est tourner plusieurs autres saisons, parce qu'on a plein de saisons en stock, puisque ça fait 5 ans que ce spectacle, le Bidiodule, existe. Donc j'ai 5 saisons de Nestor Alphonse qui vont venir, et voilà, on espère être diffusé aussi, pas seulement dans le monde des chrétiens, parce que je crois que tous ont besoin de valeurs, de retourner aussi à certaines valeurs et discussions en famille. Donc on aimerait bien atteindre le grand public.
Ils ont une voix assez extraordinaire, Nestor et Alphonse.
Oui.
Vous avez mis du temps à trouver cette voix
Oui, enfin, c'est venu comme ça. Donc, quand c'est des personnages, quand on part dans nos délires d'imaginaire, on est capable de tout. Comme chaque parent qui raconte une histoire à ses enfants et qui utilise des voix rigolotes pour faire le loup ou pour faire la grand-mère ou voilà.
Petit ver de terre tiré de l'imaginaire de Marie-Alice Monge et de son équipe pour faire rire ou sourire petits et grands et réfléchir aussi sur des questions que nous nous posons tous. On l'aura compris en écoutant notre invité, les réponses données à nos petites et grandes questions existentielles trouvent leur source dans la Bible. Mais il est temps de refermer les rideaux du théâtre de marionnettes. On se retrouve tout bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, eh bien retrouvez-nous sur le site www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme.